Oeil.
La une ce midi, c'est le musée des Marquises, un projet lancé malgré les débats. Cette formation de jeunes handicapés au métier de la restauration à l'association Tévaïté. Et enfin l'anniversaire d'un monument de papeterie, la cathédrale fête ses 150 ans. Le journal, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et on commence avec ce projet qui continue de faire débat, le musée des Marquises.
La commune de Hiva-Oa n'attend plus la réponse du pays sur une éventuelle participation financière. Le projet est lancé. Un avis a été publié dans le journal officiel au début du mois de décembre pour la maîtrise d'œuvre de la rénovation du musée des arts des îles Marquises. La maire de Hiva-Oa parle depuis longtemps de ce projet. Créer un véritable musée pour les six îles des Marquises qui doit accueillir 200 œuvres du musée de Bâle et du musée de Cambridge. La maire de Hiva-Oa, Joël Frébeau, se plaint toutefois de ne toujours pas avoir de réponse du pays sur leur participation financière ou non.
Ça fait un an et demi qu'on discute avec le pays et donc bon, je vois bien qu'il n'y a aucune avancée à ce niveau-là. Le gouvernement, le président du pays, bon, on ne daigne pas nous répondre. On va démarrer justement, donc on va faire avancer les choses. On ne peut plus attendre parce qu'on a déjà trop attendu et on va commencer le projet déjà avec la quote-part de l'État et celle de la commune. Et puis on verra, quitte à redimensionner le projet un peu plus petit, on le fera, mais ce projet se fera de toute façon.
En juillet dernier, Joël Frébeau avait profité de la visite de Manuel Valls, qui était alors ministre des Outre-mer. L'État avait déjà dit oui pour participer à ce projet, 63 millions de francs, la même somme que la commune prévoit de mettre. Alors peut-être Manuel Valls pouvait-il convaincre Moëta Ibroverson de compléter le financement du projet. Le président du pays avait répondu, le terme même de musée posait problème, ce que reconnaît la maire de Hiva-Oa.
Peut-être il faudra qu'on change l'appellation parce que le pays nous dit que le musée, ça passera pas. Ils peuvent pas, c'est leur compétence, c'est la compétence du pays, la culture, donc ça passera pas au musée. Donc on va trouver une appellation qui passera. C'est pas un souci, c'est juste un nom et puis voilà.
Et d'ailleurs, sur le site de la mairie, le projet est présenté sous le nom de Maison des Arts des îles Marquises. Et au-delà de ce débat, la Hakaiki de Hiva-Oa veut donc lancer le projet. Elle a peur que les accords avec les musées internationaux ne tiennent plus et que cette opportunité passe sous le nez des Marquises.
C'est une opportunité pour nous, pour les Marquises, pour la Polynésie aussi, parce que des dons comme ça, ça n'arrive pas tous les jours. Donc il faut vraiment qu'on saisisse cette chance qu'on nous donne, qu'à force de traîner, ça va nous passer sous le nez après, c'est dommage. Il faut vraiment la prendre. On ne nous demande rien, on ne paye rien. Tout est restitué gratuitement, même la prise en charge du fret, c'est eux qui prennent tout en charge. Ils viennent même nous aider jusqu'à Hiva-Oa, donc pour nous aider comment protéger tout et former de nos jeunes.
Alors si Joël Frébeau parle de dons et de restitution, les musées de Bâle et de Cambridge parlaient plutôt, eux, de prêts de longue durée.
On continue avec cette formation au restaurant L'Éphémère, cette fois pour des jeunes en situation de handicap cognitif.
Oui, L'Éphémère, c'est le restaurant de l'association T'éveille été et elle s'intéresse d'habitude aux personnes sans abri. Mais cette fois, c'est un groupe de 8 jeunes handicapés cognitifs qui a profité des locaux du restaurant pour être formés au métier du secteur. Ils viennent de finaliser la première phase de leur formation en cours depuis 4 mois. Ils ont appris à travailler aussi bien en cuisine qu'en salle, alternant les postes chaque semaine. Prochaine étape, un stage de 2 mois au Hilton, au Pearl Tahiti, au Red et à l'Agora, avec de véritables possibilités d'embauche. Au-delà des compétences professionnelles, le dispositif a aussi eu un impact fort sur les familles, comme le raconte Père Christophe.
Les 4 mois nous ont permis de voir et puis aussi de libérer davantage les parents qu'ils aient plus confiance dans leur enfant. Il y en avait un de Paya qui venait en truck tous les jours, tout seul. Et ça s'est passé très très bien. Un autre de Maïna, sa maman me l'a dit. Elle dit « Ah tu sais, je me suis foulé le pied. » Elle dit « C'était une bonne chose parce que du coup j'ai lâché mon enfant qui le dernier mois est venu en bus. » Et il y a une fille aussi de Paya. C'est la première fois que sa maman la laisse partir en vacances dans les îles, dans sa famille. Mais toute seule. Alors que c'est des jeunes quand même, 23, 24 ans. Hein.
Et puis un autre groupe aussi, des femmes sans domicile fixe, a lui aussi entamé son programme de réinsertion à Tévaïété. Elles ont suivi une formation théorique sur 4 mois avec 2 stages pratiques et elles reprennent le service à l'éphémère la semaine prochaine.
Santé maintenant avec l'épidémie de grippe toujours en cours.
Et oui, une épidémie où on compte un 3e décès survenu dans la semaine du 15 au 21 décembre. Il n'y a plus d'augmentation des cas, mais les autorités sanitaires précisent que la vigilance doit être maintenue compte tenu du contexte des vacances et des déplacements.
Social avec ce nouveau préavis de grève déposé à la tour de contrôle.
La grève illimitée des contrôleurs aériens de l'USAC CGT avait pris effet le 19 novembre et arrêté le 11 décembre et puis suivi par une autre du 16 au 31 décembre. Et vendredi, l'USAC CGT vient de répéter le processus. Un nouveau préavis déposé pour le 1er janvier. Pour Tiarama Le Hartel de l'USAC CGT, la direction n'a pas entamé de dialogue sérieux et elle espère surtout que d'autres personnels de la tour de contrôle se joignent au mouvement.
Les revendications sont portées par tous les contrôleurs. C'est juste que certains osent aller à la grève, quand d'autres n'osent pas parce qu'ils ont peur. On a lancé une caisse de grève. Il y a plus de personnes dans la caisse de grève que de grévistes. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne se déclarent pas grévistes mais qui soutiennent le mouvement. Il y a quand même une genre de convergence pour les revendications portées par le mouvement. Je le vois comme de bon augure que finalement on n'est pas partis tous ensemble en même temps, mais qu'à un moment on va devoir unir nos forces, quoi.
L'autre syndicat de la tour de contrôle, le SNCTA, qui est non gréviste, a tenu une assemblée générale le 15 décembre dernier. La convocation rappelait qu'il y a déjà un an, il demandait une réorganisation du travail. Le SNCTA qui demande aussi l'intervention d'une entreprise dont la médiation avait fait ses preuves en Guadeloupe et à La Réunion pour résoudre ce conflit ici à Tahiti.
Justement, en parlant de l'aéroport, c'est quelques chiffres maintenant sur le tourisme.
En octobre 2025, les capacités de l'hôtellerie internationale en Polynésie ont augmenté de 5% par rapport à octobre 2024 et sur la même période, le nombre de chambres louées progresse aussi, plus 7% sur un an. Une augmentation qui s'explique par la progression des ventes vers les marchés hexagonaux européens alors que celles sur le marché nord-américain baissent. Le coefficient moyen de remplissage progresse mais le revenu moyen par chambre louée et par chambre disponible diminue pour s'établir entre 55 et 71 000 francs. Les prix par chambre restent donc toujours élevés. Selon l'ISPF, l'activité économique du troisième trimestre 2025 était portée par les bons chiffres du tourisme. Ce devrait être également le cas pour cette fin d'année.
On termine avec l'anniversaire de ce monument de Papeete.
La cathédrale fête ses 150 ans en ce mois de décembre. L'occasion de raconter un peu son histoire, car ce monument n'est pas le premier qui avait commencé à être construit en 1854. Quand la première pierre de cette cathédrale est posée, les ambitions étaient peut-être un peu trop grandes. Des ouvriers mangaréviens avaient été recrutés. Le terrain marécageux consolidé par des tonnes de pierres et les murs commençaient à s'élever. Mais après 3 années de travaux, le chantier s'est interrompu. Le sol devait se stabiliser. Les ouvriers souhaitaient rentrer au Gambier et surtout les finances manquaient. Une autre proposition arrive alors, explique Père Christophe.
Le gouverneur de la Roncière propose à ce que l'on détruise ce qui existe et que l'on construise une église plus petite, mais en l'espace de 2 ans. Et du coup, aux frais de la colonie. Et donc la cathédrale actuelle est cette deuxième construction. Et donc elle est inaugurée le 23 décembre 1875.
Un point fort de son histoire reste lors de la Première Guerre mondiale. Lors du bombardement de Papeete en 1914 par la marine allemande, la cathédrale est intacte alors qu'autour d'elle, tout est détruit. Alors rien à voir avec une protection divine quelconque, mais bien une décision du commandant du bateau allemand.
Les marins, contrairement à ce qu'on pense, ça vise très précisément. Un bateau, ça s'est visé juste. Et on pense qu'il y a vraiment une volonté de ne pas atteindre la cathédrale, parce qu'il a tout détruit autour. Hein. Tu prends toute la rue Jeanne d'Arc, tout était détruit, le marché était détruit. Il y a même eu des obus qui ont été jusqu'à Lamennais. Et la raison, c'est que l'amiral était catholique.
Voilà. Fermée plusieurs années dans les années 1960, elle est rénovée en 1980 et en 2005. Le monument reste un repère religieux, patrimonial et historique unique en Polynésie française et un repère géographique aussi puisqu'elle marque le PK0 de l'île de Tahiti. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie.